Radio Prague, les informations.
Sommet Union européenne-Russie sous la présidence tchèque. Première intervention des pilotes tchèques en Lituanie. Plus de 8 millions d'électeurs tchèques pour les européennes. L'énergétique, la sécurité énergétique, la crise économique ou encore la situation dans le Caucase sont les principaux thèmes qui ont figuré au programme du sommet Union européenne-Russie de deux jours à Khabarovsk, dans l'est de la Russie. Les 27 étaient représentés par le chef de l'État tchèque Václav Klaus, le président de la Commission européenne par José Barroso et le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, Javier Solana. Pour les deux parties, ce sommet devait permettre de poursuivre le dialogue, la signature d'aucun accord n'étant programmée. Les pilotes des IAS 39 Gripen de l'armée de l'air tchèque qui sont chargés dans le cadre de l'OTAN de surveiller l'espace aérien des républiques baltes sont intervenus pour la première fois dans le ciel lituanien ce jeudi. Ils ont intercepté un avion civil qui avait violé l'espace aérien à la frontière entre la Lituanie et la Russie. Ils l'ont escorté jusqu'à l'aéroport de Klaipėda. Pour les élections au Parlement européen, au début du mois de juin, plus de 8 millions de Tchèques sont attendus aux urnes. Les électeurs devraient savoir où se rendre, car les maires étaient tenus de les en informer ce jeudi au plus tard. Les élections ont lieu en général dans les écoles ou autres bâtiments publics. Lors des dernières européennes, il y a 5 ans, seulement le tiers des électeurs tchèques avaient voté. On attend une participation un peu plus importante cette année. Le parti ouvrier formation d'extrême droite vient de déposer une plainte contre le directeur de la radio tchèque Václav Kasík, pour entrave à la préparation et au déroulement des élections ou d'un référendum. La porte-parole de la radio tchèque, Eva Ticha, a déclaré que la radio n'avait pas violé la loi et qu'elle portera plainte elle-même contre les deux partis d'extrême droite, le Parti ouvrier et le Parti national, dont elle a décidé de ne pas diffuser les spots électoraux jugés comme trop radicaux. Les gaufrettes de Mariinské Lázně pourront définitivement utiliser l'appellation contrôlée européenne et deviennent un produit protégé. Certaines complications étaient apparues dans le passé en raison de protestations de la part de l'Allemagne qui affirmait que les gaufrettes de ce genre ne sont pas fabriquées seulement à Mariinské Lázně et ses environs. L'Allemagne est revenue sur cette position et les gaufrettes de Mariinské Lázně deviennent donc européennes de plein droit. Les églises de Brno-Plzeň et de 8 autres villes de la République tchèque sont ouvertes au public dans la nuit du 29 mai. Ce sera pour la première fois que les clergés chrétiens tchèques organiseront la nuit des églises en République tchèque. Ce sera à Brno que le plus grand nombre d'églises et de sanctuaires, 18, sera ouvert. La tradition de la nuit des églises est arrivée en Tchéquie d'Autriche, où la première édition organisée spontanément par les croyants a eu lieu en 2005. La météo nous annonce un temps très chaud, mais avec un ciel assez nuageux et met en garde aussi contre de violents orages un peu sur tout le territoire. Les températures seront au-dessus de la moyenne pour la saison, en dépassant même les 25 degrés. La même tendance est attendue pendant tout le week-end. Bonne fête le 23 mai à tous les Vladimir, d'après le calendrier tchèque. C'était Alain Slivinski, les informations sur Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce dernier tour d'horizon de l'actualité tchèque de la semaine. Au sommaire de la politique tout d'abord, après le sommet avec la Chine et avant celui avec la Corée du Sud, le président tchèque Václav Klaus représentait l'Union européenne lors du sommet avec la Russie. Il sera ensuite question d'une actualité plus tchéco-tchèque, nous évoquerons notamment la situation des Roms à Prague, avant de finir sur une note culturelle et historique avec une exposition intitulée « Le saint sur le pont ». Et avant de savoir de quel saint il s'agit et de développer l'ensemble de ces titres, toute l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite, où que vous soyez dans le monde, la meilleure réception possible de notre programme. Après la réception du Premier ministre chinois mercredi à Prague, un autre sommet avec une puissance mondiale figurait jeudi et vendredi au programme de la présidence tchèque de l'Union européenne. Accompagné de José Barroso et de Javier Solana, le président tchèque Václav Klaus représentait les 27 à Khabarovsk, en Sibérie extrême-orientale, où la délégation européenne a été reçue par le président russe Dmitri Medvedev. Un sommet pour rien, affirment certains, mais qui a eu le mérite de mettre une nouvelle fois à jour la complexité des relations entre Bruxelles et Moscou. Dans l'avion de son retour à Pékin, le premier ministre chinois Wang Yabao aurait pu emmener avec lui le président tchèque, le président de la Commission européenne et le chef de la diplomatie européenne. En ces temps de crise, cela aurait permis de faire quelques économies et qui sait d'évoquer dans le ciel russe la question des droits de l'homme. Les médias tchèques se sont d'ailleurs posé la question de savoir si la décision d'organiser le sommet avec l'Union européenne à des milliers de kilomètres de Moscou et de Saint-Pétersbourg, dans la capitale de la région la plus à l'est de la Russie, à une trentaine de kilomètres de la frontière chinoise, ne marquait pas une volonté du Kremlin de marquer le refroidissement de ses relations avec Bruxelles. Un argument réfuté par le président russe qui a affirmé que le choix du lieu devait servir à une meilleure compréhension européenne de l'immense Russie, mais que le déroulement et surtout la fin du sommet n'ont pas permis de totalement exclure. Que ce soit en matière d'énergétique ou dans la position à l'égard des pays anciennes républiques soviétiques, les deux parties ne se sont en effet guère entendues. Malgré les déclarations habituelles de bonnes intentions sur les relations de partenariat, le conflit russo-géorgien dans lequel l'Union européenne avait défendu la cause géorgienne et le conflit gazier russo-ukrainien ont laissé des cicatrices. Václav Klaus a eu beau affirmer que le débat ouvert avait, je cite, « augmenté la compréhension et la confiance mutuelle », la réalité est que l'Union européenne et la Russie ne sont parvenus à aucune avancée notable en matière de sécurité énergétique. Dmitri Medvedev a ouvertement reconnu qu'une nouvelle crise semblable à celle du début de l'année pourrait se reproduire. La Russie n'a donné et ne donnera aucune garantie. Il n'y a aucun problème de notre côté. La garantie devrait être donnée par celui qui doit payer le gaz, a expliqué le chef du Kremlin en faisant allusion à l'Ukraine. Sans surprise, des divergences de vues sont également apparues concernant le projet européen de partenariat oriental, qui prévoit le renforcement des relations entre l'Union européenne et 6 États post-soviétiques, et que la présidence tchèque a officiellement lancé au début du mois à Prague. Dmitri Medvedev a prévenu qu'il ne souhaitait pas que ce partenariat oriental soit considéré comme un partenariat contre la Russie, dans une région que Moscou considère traditionnellement comme une zone d'influence réservée. Avant de prendre la direction de la Corée du Sud, où l'attend un troisième et dernier sommet, le président tchèque s'est également entretenu avec son homologue russe. À l'issue de ce court entretien, Václav Klaus, auquel certains à Prague reprochent ses positions pro-russes, s'est contenté d'annoncer qu'il n'existait aucun problème dramatique entre les deux pays et que la question de l'éventuelle implantation du radar américain sur le sol tchèque n'avait pas été évoquée. Le conseil municipal de Prague vient de recevoir l'étude qu'il avait commandée et qui analyse la situation de la communauté rome dans la capitale tchèque. Il s'agit de la première étude de ce genre jamais réalisée et elle suscite des critiques aussi bien positives que négatives. Le sujet vous est présenté par Alain Slivinski.
C'est l'association Socioclub qui a réalisé l'étude et elle a coûté 500 000 de couronnes, près de 20 000 euros, ce que certains membres du conseil municipal de Prague représentant l'opposition critique. L'un d'eux, Miroslav Poche, affirme « Cette étude a coûté assez cher et en fin de compte, nous n'apprenons même pas combien de Roms vivent à Prague ». Précisons qu'il n'a pas tout à fait raison, car l'étude fait état de 13 000 à 17 000 Roms domiciliés dans la capitale. Il est impossible d'avancer des chiffres plus réels, car un grand nombre de Roms ne se déclarent pas membres de cette ethnie. L'étude arrive à la conclusion que la situation des Roms dans la capitale tchèque diffère grandement de celle des autres grandes villes ou régions tchèques. La première différence est l'absence de sorte de ghetto, car les Roms pragois sont en général dispersés au sein du reste de la population. Seulement un tiers d'entre eux vit dans des localités où leur concentration est plus forte. Les pragois sont en général beaucoup plus tolérants envers la minorité rome que dans d'autres régions. Une éventuelle discrimination, le racisme ou la xénophobie à son égard est aussi bien moins importante qu'ailleurs. L'étude révèle aussi que les hypothèses sur le très fort taux de chômage des Roms et leur misère ne sont aucunement fondées. En ce qui concerne leur répartition sur le territoire de la capitale, ce sont les arrondissements de Prague 3 et Prague 8 qui sont les plus peuplés par les Roms, à la différence du premier arrondissement où ils sont très peu nombreux. Leur plus gros problème est représenté par la question du logement. Pour eux, il ne s'agit pas de trouver un logement, mais surtout d'y loger leurs très nombreuses familles. Un sondage récent a révélé que les foyers roms pragois comptent le plus souvent de 6 à 10 membres. Le conseiller municipal pour les affaires sociales, Jiří Janeček, indique que cette étude sera distribuée aux mairies des arrondissements de Prague à titre d'information. La conseillère municipale qui représente le Parti des Verts, Petra Kolinska, affirme « Je suis heureuse qu'une telle étude ait enfin été réalisée, car jusqu'à maintenant, personne ne savait vraiment combien il y a de Roms à Prague et quelles sont leurs spécificités. L'étude devrait être examinée en détail par le conseil municipal de Prague, et cela en présence du ministre droits de l'homme et minorité, Michael Kotzab, pour devenir une sorte de manuel pour la réalisation de projets en faveur de la communauté rome.
L'exposition intitulée « Le Saint sur le pont » inaugurée le 15 mai au musée du Pont Charles à Prague présente les diverses formes de culte de Saint Jean Nepomucène, patron de Bohême, dont nous commémorons cette année le 280e anniversaire de la canonisation. Une reconstitution des festivités baroques, musicales et navales a précédé le vernissage. Plus de détails avec Erka Gisubelova.
La légende de Saint Jean Nepomucène, mort en martyr en 1393, noyé dans la Vltava pour avoir refusé de trahir les confessions de la reine, a revécu lors d'un spectacle insolite navalis jamais vu à Prague depuis 1715. Au rythme de musique baroque, les effets lumineux ont été projetés sur la Vltava, sillonnée par cette gondole dont la plus longue au monde, Quattro de Sona, acheminée pour l'occasion de Venise, où plusieurs églises sont consacrées à ce saint tchèque le plus connu, paraît-il, au monde. Jan Roit de la faculté catholique théologique de l'université Charles évoque la propagation du culte de saint Jean Nepomucène.
Ce culte était très fort dans le pays. Pratiquement chaque ville possédait une statue de saint Jean Nepomucène, canonisé en 1729 comme martyr du secret de la confession.
Le culte de Jean Nepomucène, symbole de la véracité et de la fidélité, est répandu également en Bavière, en Espagne ou en Amérique latine, comme le complète l'historien d'art Vít Vlnas de la Galerie nationale.
Jean Nepomucène est l'un des saints les plus vénérés, vu la multiple protection qu'il accordait. Il est le patron des bateliers, des ponts, des prêtres, de tous les hommes qui avaient quelque chose de commun avec l'eau.
Le titre de l'exposition « Le Saint sur le pont » fait référence à la statue de Saint Jean Nepomucène, l'une des plus célèbres statues ornant les ponts, celle qui trône au milieu du pont Charles, à l'endroit supposé où son corps aurait été précipité dans le fleuve. Le tombeau de Jean Nepomucène, vicaire de l'archidiocèse pragois, devenu le plus probablement victime d'un conflit de pouvoir entre l'Église et le roi, se trouve à la cathédrale Saint-Guy. Le culte de ce saint inspirait d'innombrables objets d'art, dont quelques-uns sont actuellement à voir au musée du Pont Charles. Le commissaire de l'exposition Miroslav Kindl nous présente ceux des plus précieux.
On expose des objets provenant du trésor de la cathédrale Saint-Guy, ainsi que de très précieux objets, preuve des hommages rendus au culte Saint-Jean par les milieux impérieux, comme les 6 cartouches ornant son tombeau qui ont été offerts par la famille habsbourgeoise. On présente bien évidemment des ostensoirs, des calices sacerdotaux et d'autres objets de valeur.
L'ordre des chevaliers de la croix, l'étoile rouge est le co-auteur de l'exposition Le Saint sur le pont qui se prolonge au musée du Pont Charles jusqu'au 31 août prochain.
Thank you.
Et dans la suite du programme en français de Radio Prague, nous vous proposons la première partie d'un entretien réalisé avec Martina Skala. Martina Skala est une illustratrice aux multiples talents. Née à Prague, elle a émigré dans les années 80 en France et vit aujourd'hui en Californie. Elle a parlé de son parcours à Alexis Rosenzweig sur la terrasse d'un café du centre de Prague. On l'écoute tout de suite.
Panorama.
Panorama.
République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour Martina Skala, je crois que vous êtes aujourd'hui et en ce moment à Prague pour la présentation d'un livre pour enfants que vous avez illustré. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, c'est un livre que j'ai illustré, qui est l'histoire se passe au jardin parmi des légumes et un petit escargot qui est très bête et qui fait des aventures à travers son petit jardin minuscule. Et c'est la troisième fois quand je travaille avec l'écrivain Magdalena Wagnerova, avec qui j'ai illustré déjà un livre qui s'appelait Petit Trognon, et le deuxième qui s'appelait La Grenouille. Et c'était 365 histoires, c'est-à-dire une petite histoire pour chaque jour. Et à nouveau, nous sommes rencontrés sur le projet Loupiche. Je ne sais pas comment traduire ça. C'est quelqu'un qui est bête, mais inoffensif. C'est même pas insultant, c'est presque tendre. Donc, c'est cette petite créature escargot.
Alors, je dis si vous êtes ici en ce moment, parce que vous êtes, on l'entend peut-être, même si vous parlez très bien le français, vous êtes tchèque, mais vous êtes parti de Prague, vous êtes né à Prague, et vous êtes parti de Prague en 1983, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce départ ?
Oui, je suis né à Prague, pas très loin du château, à Malastrana, donc c'était vraiment fabuleux comme décor. J'étais très très heureuse ici, mais je voulais toujours vivre aussi ailleurs, donc j'ai quitté ce pays en 83 et je suis allée à Paris parce que, en tant que peintre, je voulais toujours vivre en France.
Comment êtes-vous partie, puisqu'en 1983, c'était loin d'être facile, j'imagine?
Eh bien, j'ai pris le train, je ne suis pas revenue.
Ils vous ont laissé partir?
C'est-à-dire, j'avais la permission de visiter Paris pendant une semaine, c'est-à-dire c'était limité. Et si je ne suis pas retournée au bout d'une semaine, à ce moment-là, j'étais considérée comme une réfugiée. Et effectivement, j'étais sanctionnée. Et il n'y avait pas d'intérêt de revenir parce que c'était pas possible. Sinon, comment on appelle ça? Oui, j'étais réfugiée politique parce que je refusais de retourner dans mon pays dans les délais qui m'étaient imposés par le gouvernement. Et donc, je suis restée à Paris et la première fois quand je suis retournée à Prague, c'était en 1991.
Et qu'est-ce que vous avez fait à Paris en arrivant?
J'avais un peu des amis à gauche, à droite, des amis français, mais aussi des amis tchèques. Et au début, j'ai fait tout. J'étais une serveuse, j'ai fait beaucoup de garde-enfants, j'en ai fait beaucoup de petites choses comme ça. Et après, je travaillais aussi au musée du cheval à Chantilly, où je dansais avec le cheval, parce qu'il y a un petit cirque de Monsieur Bien-Aimé. Et à l'époque, ils ont montré l'histoire du cheval et de l'équitation à travers un petit spectacle. Moi, j'aime beaucoup les chevaux, j'ai beaucoup monté à cheval ici. Et donc, quand j'ai cherché du travail, du coup, je suis restée à Chantilly pendant 6 mois. Et après, je trouvais, à travers Miloš Forman, qui m'a gentiment recommandé sur le film L'insoutenable légèreté de l'être, c'est là où j'ai rencontré le chef décorateur Pierre Guiffroy. Et parce que moi, j'ai étudié l'histoire et aussi la scénographie et les costumes du théâtre. Là, j'ai commencé à travailler avec Pierre Guiffroy. Et d'ici, on était inséparables pendant 8 ans.
Alors, commencer sur l'adaptation du roman de Milan Kundera, c'est quelque chose de commencer sa carrière dans le cinéma avec un film comme ça. Vous avez rencontré Milan Kundera à cette occasion?
Je l'ai vu une seule fois quand il est venu sur les plateaux, mais je ne l'ai pas rencontré personnellement et je pense pas qu'il était vraiment impliqué dans le tournage. Mais oui, c'était étrange que j'ai quitté mon pays. Et d'un coup, le premier travail sérieux que j'avais, c'était effectivement l'histoire de Teresa et son mari qui quittent le pays. Et toute cette nostalgie, on a travaillé, on a fait des décors à Lyon, des extérieurs à Lyon. On a travaillé à Studio de Boulogne. On a construit des décors de Prague. Donc, c'était un peu surréel parce que j'ai quitté mon pays et je voulais m'adapter au plus vite possible à Paris. Et d'un coup, pendant un an, pendant 8 mois, j'ai vécu à Prague à nouveau.
Quel souvenir vous reste-t-il de ce film, de ce premier film pour vous?
Nostalgie. J'ai pas aimé le fait que je me suis réveillée à Paris. Et tous les matins, je suis allée au travail et je me suis retrouvée à Malastrana ou à l'église de Saint-Nicolas. Et tous ces problèmes, effectivement, qui sont très bien décrits dans cette nouvelle. Oui, je voulais me débarrasser de tout ça. Et d'un coup, j'étais en plein dedans. Et il fallait en discuter pendant tous les jours. Donc, c'était émotionnellement, c'était assez difficile. Parce que c'est vrai, j'étais nostalgique. Et là, j'étais doublement.
Alors, après ce film, vous avez continué dans le cinéma. Il me semble que vous avez tourné avec des réalisateurs quand même connus, dont Roman Polanski.
Oui, parce que Pierre Giffroy, qui est un excellent chef décorateur, qui a travaillé avec Cocteau et Buñuel, et il a travaillé beaucoup avec Roman Polanski, avec qui il a fait Locataire. Alors, nous avons fait un autre film avec M. Polanski, c'était La jeune fille et la mort. Après, on a commencé à préparer un film qui s'appelle Le Double. C'était avec John Travolta, mais malheureusement, le premier jour de tournage, le projet était terminé parce que M. Travolta est parti aux États-Unis. Aussi, on a fait un film avec Miloš Forman, Valmont, qui s'est tourné en France. C'était La liaison dangereuse. On a travaillé avec André Verneuil.
J'ai cru lire que c'était sur le tournage d'un des films de Polanski que vous aviez rencontré votre futur mari, qui est français.
Oui. C'était sur La jeune fille et la mort. Et mon mari, François Duhamel, est photographe. Il est photographe de plateau. Il vit à Los Angeles depuis 30 ans. Mais on s'est rencontrés au tournage et puis moi, je déménageais à Los Angeles, que je n'ai jamais pu imaginer avant.
Alors, vous êtes resté combien de temps en tout à Paris?
12 ans. 12 ans et j'habitais toujours Rive-Gauche. J'adore Rive-Gauche.
Et vous aimez Hollywood?
Pas du tout. Et je suis 12 ans à Los Angeles.
Comment vous faites pour y survivre?
J'ai des aliments. Et je conseille à tout le monde, quand ça ne va vraiment pas, prendre un petit labrador. C'est un animal formidable.
C'est mieux que la drogue?
Absolument, mieux que beaucoup de choses. Donc j'ai un petit labrador noir, enfin il est déjà âgé là, il a 12 ans. Mais j'ai deux chats, Pushkin, parce qu'il faut quand même avoir un peu de culture là-bas, et puis Choupak, ce qui veut dire en français Gavroche.
Alors combien de fois par an est-ce que vous revenez ici dans votre ville natale?
Une fois par an, mais je reste relativement longtemps. Je reste à moins 6 semaines. Mais entre-temps, je m'arrête aussi parfois à Paris, quand c'est possible, parce que je considère quand même Paris comme mon pays. Enfin, je veux dire, la France comme mon pays. Parce que je suis née dans un pays que j'aime beaucoup. Et après, j'ai choisi un autre pays que j'aime aussi beaucoup.
Et vous avez quel passeport aujourd'hui?
Les deux. Le français et le tchèque. Et parce que je n'ai jamais perdu vraiment la nationalité tchèque. Et puis je vis en Amérique. Je m'adapte. Le paysage est magnifique, les fleurs. J'aime beaucoup le désert. Quand vous allez voir Monument Valley ou quand vous allez dans la vallée de la mort, c'est magnifique, c'est spectaculaire. Mais Los Angeles et Hollywood, je n'aime pas, mon cœur n'y est pas.
Et
C'est avec l'illustratrice et la décoratrice Martina Scala que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet à l'adresse www.radio.cz. Sinon, rendez-vous près de vos postes dès demain, même heure, même fréquence. À très bientôt donc. Ahoy.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on